l'église au XVIIe siècle. Et nous étions arrivés donc à l'histoire de l'église catholique au XVIIe siècle. Et un nouveau chapitre que nous abordons ce soir, c'est le gallicanisme. Le gallicanisme, c'est un mouvement qui, comme son nom l'indique, intéresse essentiellement l'église catholique française, et qui est un mouvement qui est dirigé par Bossuet, célèbre écrivain et évêque de Meaux. Le gallicanisme est une réaction qui tente à limiter l'autorité du pape sur l'église catholique française. C'est un mouvement qui n'est pas absolument nouveau, dans ce sens qu'il est un petit peu le pendant de ce qui s'est passé un siècle plus tôt en Angleterre, avec ce qu'on appelle l'anglicanisme. D'ailleurs, anglicanisme et gallicanisme sont des mots qui sont parallèles, si l'on veut dire. L'anglicanisme était une tentative de l'Église catholique d'Angleterre de prendre du champ par rapport à l'autorité romaine, et le gallicanisme est un mouvement qui lui est absolument parallèle, à un siècle de distance. L'anglicanisme, par la force des choses, a dérivé jusqu'à une rupture avec Rome qui n'était pas dans les intentions premières des responsables du mouvement, à commencer par le roi Henri VIII lui-même, qui n'avait jamais envisagé une rupture totale avec Rome, mais simplement une certaine autonomie et une certaine indépendance par rapport à Rome. À cause des crispations, d'une part, du pape, d'autre part, du roi d'Angleterre, Henri VIII, puis à cause du contexte général du mouvement de réformation qui secouait l'Europe au XVIe siècle, on a abouti finalement à une rupture avec Rome. C'est à cette rupture qui a mis quelques bémols et qui a mis fin aux velléités de l'Église catholique française de suivre le même chemin, mais il est certain que au moment où l'anglicanisme commençait à se manifester outre-Manche, il y avait en France un certain nombre de gens qui pensaient aussi qu'il aurait été souhaitable que l'Église catholique française prenne une position quelque peu similaire à celle de l'Église d'Angleterre. Il faudra donc attendre que la tourmente de la réforme soit un peu apaisée, c'est-à-dire précisément ici au XVIIe siècle, pour que ces velléités qui avaient déjà secoué l'Église catholique française un siècle auparavant se manifestent. Et se manifestent d'autant plus aisément que le roi Louis XIV, on le sait, est un roi absolu, qui supporte très mal une autorité autre que la sienne, et s'il se dit roi très chrétien et très catholique, alors qu'il a une conduite qui est fort peu chrétienne, au demeurant, n'est-ce pas, bien que roi très chrétien, comme il le dit, il ne souhaite pas être inféodé au pape d'une manière trop profonde, et il supporte de plus en plus mal qu'en quelque sorte l'Église catholique soit le seul, et le clergé, disons très exactement, le clergé soit la seule classe sociale de son royaume qui échappe à son autorité. Et lorsque Bossuet soulève l'étendard du gallicanisme, il va être pleinement appuyé par la personne du roi, par le roi Louis XIV. Le gallicanisme n'est pas non plus nouveau dans ce sens qu'il reprend une vieille théorie qui déjà avait failli triompher au XIVe siècle, au XVe siècle plus exactement au Concile de Constance, n'est-ce pas, et qui avait toujours été débattue jusqu'au Concile de Trente dans l'Église catholique, à savoir qui dans l'Église, n'est-ce pas, représentait l'autorité absolue suprême. Est-ce le pape ou sont-ce les conciles? Et jusqu'au Concile de Trente, cette question était restée en suspens. Selon les époques, le balancier oscillait tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, et notamment au moment où la papauté sombre dans la décadence du XVe siècle en particulier, on va entendre de plus en plus de voix s'élever pour proclamer que, somme toute, un concile a autorité sur le pape. Et c'est finalement ce que le Concile de Constance lui-même, n'est-ce pas, proclamera. De ce fait, nous l'avons vu, pendant toute la durée du XVIe siècle, les papes auront une peur bleue des conciles. Et on se souvient que une des revendications de Luther, c'était justement qu'un concile général soit convoqué pour examiner ses thèses. Et dans la crainte qui est la leur de voir un concile, comment dirais-je, empiéter sur l'autorité qu'ils ont essayé de regagner, les papes du XVIe siècle refuseront et rejetteront, n'est-ce pas, toutes les demandes de Luther de convoquer un concile. Ce qui fait que, ce faisant, n'est-ce pas, dans leur obstination, eh bien, ils feront le lit de la réforme d'une manière totale. Et finalement, quand ils se décideront à convoquer un concile, qui sera le concile de Trente, concile qu'ils auront verrouillé auparavant pour que ce dernier proclame le dogme de la primauté du pape sur les conciles, eh bien, il sera trop tard pour endiguer le mouvement de la réforme malgré un succès partiel de la contre-réforme que lancera le concile de Trente. Par conséquent, il y a, malgré les décisions du concile de Trente, des gens qui, dans l'Église catholique, continuent à penser que le concile, en fin de compte, est souverain et son autorité surpasse l'autorité du pape. Bossuet et les Gallicans qui vont le suivre sont de cela. Et la thèse essentielle, justement, de Bossuet, c'est que le concile a priorité sur le pape. Hein, les assemblées des évêques, les évêques rassemblés en concile sont divinement inspirés par le Saint-Esprit et c'est en leur sein que se manifeste l'infaillibilité de l'Église et non pas en la personne du pape. Cette proclamation de Bossuet, n'est-ce pas, qui se concrétise dans ce que l'on appelle les articles gallicans, qui sont élaborés en 1682 et qui sont donc publiés avec l'autorisation et l'appui du roi Louis XIV. Donc, voici ces articles gallicans, les quatre articles gallicans de 1682, qui ont été ainsi approuvés par une assemblée plénière des évêques et des archevêques de France. Donc, voici ce que nous lisons dans ces articles. Nous, archevêques et évêques, rassemblés à Paris par ordre du roi, avons jugé convenable d'établir et de déclarer ce qui suit. Premièrement, que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de Jésus-Christ, et que toute l'Église même, n'ont reçu de puissance de Dieu que pour les choses spirituelles et qui concernent le salut, et non point les choses temporelles et visibles. Nous déclarons en conséquence que les rois et souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique par l'ordre de Dieu sur des choses temporelles. Évidemment, c'était toujours la vieille querelle du 14e, avec Innocent III, hein, qui avait commencé avec Charlemagne, le Saint-Empire, qui a priorité, n'est-ce pas, sur l'empereur, n'est-ce pas, est-ce le pape ou bien l'empereur a-t-il priorité sur le pape? Et c'est la fameuse querelle des papes et des empereurs, jusqu'au moment, la fameuse affaire de Canossa, n'est-ce pas, où les empereurs reconnaissent l'autorité du pape. Alors, cette question qui revient constamment, n'est-ce pas, qui empoisonne les rapports entre les pouvoirs temporels, les rois et puis les papes, n'est-ce pas, ressurgit aussi au XVIIe siècle, notamment dans le contexte de l'absolutisme royal. Il est évident qu'un homme comme Louis XIV ne veut absolument pas que le pape intervienne dans le domaine temporel. Et l'Assemblée des évêques de 1682, avec l'appui du roi, convoquée par le roi, n'est-ce pas, rappelle au pape les limites de ses prérogatives dans le domaine temporel. Donc, les rois ne peuvent être déposés directement ou indirectement par l'autorité du chef de l'Église, que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent ou relevés de leur serment de fidélité. Allusion, n'est-ce pas, à la terrible arme qu'avait employée la papauté pendant le Moyen Âge contre les rois, n'est-ce pas, l'excommunication et l'interdit. l'excommunication qui faisait que le roi, donc, ou l'empereur, était déposé et remplacé par un autre que l'Église catholique désignait, et l'interdit, c'est-à-dire le fait que, aussi longtemps que le roi ne se serait pas soumis à la volonté du pape, son royaume était frappé d'interdit, c'est-à-dire que tout le culte qui s'y célébrait, tout le culte catholique, n'était pas valide. Les sacrements, n'est-ce pas, n'étaient pas valides. Par conséquent, ceux qui les prenaient étaient en état de péché mortel, et s'ils mouraient, donc, ils allaient directement en enfer. Bon, à force d'avoir usé et abusé de ces deux armes, la papauté avait fini par les émousser pas mal. Mais c'était toujours une menace qui restait en suspens, et précisément, les évêques gallicans sont là pour dire « maintenant, ça suffit hein. ». Il n'est plus question de nous ressortir ces vieux oripeaux que sont l'excommunication et l'interdit, n'est-ce pas? Le pape, nous sommes prêts à lui reconnaître une autorité dans le domaine spirituel, mais rien dans le domaine temporel, dans le domaine des choses de l'État. Deuxième article. Que la plénitude de puissance que le Saint-Siège apostolique et les successeurs de Saint-Pierre, vicaire de Jésus-Christ, ont sur les choses spirituelles est telle que les décrets du Saint-Concile de Constance, ah, nous y voilà, le Concile de Constance, et les sessions 4e et 5e, approuvées par le siège apostolique, confirmées par la pratique de toute l'Église et des pontifes romains, observées religieusement par toute l'Église gallicane, demeurent dans toute leur force et vertu. Donc ici, négation de l'infaillibilité du pape. Et l'Église de France n'approuve pas l'opinion de ceux qui donnent atteinte à ces décrets, qui les affaiblissent en disant que leur autorité n'est pas établie, qu'ils ne sont point approuvés et qu'ils ne regardent que le temps du schisme. C'est grave. C'est tout simplement, n'est-ce pas, l'Église catholique française qui se dresse contre les décisions du Concile de Trente. C'est un véritable schisme et c'est une déchirure qui, à la limite, peut conduire, n'est-ce pas, à un schisme comme celui de l'Église d'Angleterre. La papauté se trouve ici en face d'une menace, d'une nouvelle menace de dissidence. Troisième article. Qu'ainsi l'usage de la puissance apostolique doit être réglé suivant les canons faits par l'Esprit de Dieu et consacré par le respect général. Que les règles, les mœurs et les constitutions reçues dans le royaume doivent être maintenues et les bornes posées par nos pères demeurer inébranlables. Qu'il est même de la grandeur du Saint-Siège apostolique que les lois et coutumes établies du consentement de ce siège respectable et des églises subsistent invariablement. Quatrième article. Que quoique le pape ait la principale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église en particulier, c'est bien ça. Son jugement n'est pourtant pas irréformable, à moins qu'un consentement de l'Église intervienne. Donc c'est une manière de redire ici ce que le deuxième article déclare, savoir que le pape n'est pas infaillible, mais que c'est l'Église tout entière, réunie en concile, qui est donc dépositaire de l'infaillibilité qui est un dogme de l'Église catholique romaine. Donc, je disais ici, situation gravissime. Et logiquement, si cette situation s'était produite un siècle plus tôt, alors l'Église catholique française, aujourd'hui, ne serait plus catholique. Quelle aurait été son évolution? Serait-elle devenue une Église comme l'Église d'Angleterre, marquée par la théologie de la Réforme? Mystère. Ça. L'histoire, n'est-ce pas, aurait pris un autre cours, ça c'est sûr. Mais, un siècle après la Réforme, les papes avaient tiré les leçons justement des erreurs qu'ils avaient faites un siècle plus tôt et des crispations qui avaient été les leurs et qui avaient conduit à la rupture. Les papes de l'époque ont été assez intelligents pour comprendre la gravité de la situation dans laquelle se trouvait alors l'Église de France. Mais, contrairement à leurs devanciers un siècle plus tôt, ils ont tout fait pour essayer d'apaiser les choses et de ne pas envenimer la querelle. Et à cette époque-ci, au XVIIe siècle, les papes avaient une arme qu'ils n'avaient pas un siècle plus tôt, c'était la Compagnie de Jésus, les Jésuites. Et on a pensé, comme le disent les prélats catholiques, c'est urgent, donc nous avons le temps. Que plutôt que de se crisper, et de brandir les anathèmes que précisément les articles gallicans déjà récusés. Donc c'était une manière de dire, élégamment, inutile de brandir contre nous les excommunications et les anathèmes, ça ne marche pas. Bon, le pape se l'est tenu pour dit. Alors, on a dit avec le temps, peut-être, qu'on arrivera à résorber les choses. Un temps pendant lequel on va envoyer donc les jésuites pour petit à petit, n'est-ce pas, subtilement, eh bien, regagner le terrain perdu. Et c'est ce qui va être fait. Il y aura 10 ans au cours de laquelle le problème restera en suspens. 10 ans, n'est-ce pas, que durera ce conflit gallican. Et en fin de compte, le parti des jésuites triomphera. Les jésuites qui sont déjà à l'œuvre en France, nous l'avons vu déjà depuis bon nombre d'années, que Pascal a pourfendu dans les provinciales, qui s'en sont pris aux jansénistes et qui petit à petit, n'est-ce pas, les ont anéantis. Maintenant, ils ont mission, de la part de Rome, de réduire le gallicanisme en France. Et c'est ainsi que, sous l'influence des jésuites, se crée ce qu'on appelle le parti ultramontain. Ça veut dire d'outre-mont, les monts en question étant les Alpes, c'est-à-dire le parti de Rome, en quelque sorte, le parti des jésuites. Maintenant, les choses ne vont pas se passer toujours d'une manière très pacifique. Et il y aura plusieurs occasions au cours desquelles, dans cette fameuse querelle gallicane, on sera tout près de la rupture. Une de ces premières occasions, c'est lorsque le conflit prend un tour aigu à la suite de ce qu'on appelle le problème du droit de régal. Le droit de régal, c'est le problème, si vous voulez, de l'encaissement des sièges épiscopaux vacants. C'est-à-dire que, dans la conception de l'Église catholique de l'époque, n'est-ce pas, les paroissiens, les catholiques, doivent verser un impôt ecclésiastique qui correspond à des dîmes ou des choses semblables, et donc sont versés à l'évêché du lieu. Bon. En général, l'évêque en empoche pour lui-même une bonne partie, ce qui lui permet de mener grand train. Nombre d'évêques ont des somptueux palais, des serviteurs nombreux, parfois des œuvres d'art qui ne le sont pas moins, etc. Il mène grande vie grâce à ses impôts ecclésiastiques. Et lorsque il n'y a pas de siège, lorsqu'il n'y a pas d'évêque dans un certain lieu, eh bien, qui empoche ce qu'on appelle la régale, c'est-à-dire justement ces impôts ecclésiastiques. D'ailleurs, on assiste quelquefois à des choses assez cocasses. Vous avez des évêques qui ne sont évêques que de nom, en fin de compte, qui ne résident même pas dans leur diocèse, qui mènent grande vie à la cour de Paris, et leur seule fonction, c'est d'empocher justement la régale. C'est la seule chose qu'ils font. Ils n'ont d'évêque que le nom, et ils vivent comme des parfaits seigneurs, hein, à la cour du roi, ayant forte aventure galante en général, comme la plupart des gens de la cour. Ça. Mais par contre, ils sont évêques en ce qu'ils empochent l'argent de ce qu'on appelle les bénéfices ecclésiastiques. Bon, les papes tenteront de temps en temps à mettre de l'ordre là-dedans en promulguant des édits à certains moments, disant que un évêque qui ne réside pas dans son siège ne peut pas dans son diocèse ne peut pas toucher les bénéfices ecclésiastiques. Bon, ça marche quelque temps, puis ça reprend son petit bonhomme de chemin en général. Alors, quand il n'y a pas d'évêque pour toucher les bénéfices ecclésiastiques, qui va les toucher? Logiquement, c'est le pape. Logiquement, cet argent-là part à Rome. Mais Louis XIV, qui a besoin d'argent, à cause de sa politique grandiose, eh bien dit, mais c'est pas normal que cet argent-là aille à Rome. Ça devrait aller dans mes caisses à moi. Et alors, justement, c'est un des points sur lequel le conflit gallican s'envenime. Vous voyez tout de suite, n'est-ce pas, le haut niveau spirituel dans lequel ce conflit se situe, n'est-ce pas, une question de gros sous. Et Louis XIV s'oppose à ce que les fonds des évêchés vacants soient transférés à Rome. Puis, un autre conflit vient se greffer là-dessus, n'est-ce pas ? C'est la nomination des évêques. logiquement la domination des évêques et du ressort exclusif du pape. Or, le roi de France, le roi absolu, n'est-ce pas, qui s'est bien rendu compte, n'est-ce pas, que le pape place sur les évêchés vacants des évêques ultramontains, ça veut dire des évêques qui sont favorables à Rome, des évêques qui sont travaillés par les jésuites, veut avoir son mot à dire dans la nomination des évêques. Ce n'est pas un conflit nouveau non plus. Souvenons-nous que, par exemple, l'Église catholique française avait failli basculer à la réforme du temps de François Ier pour cette raison, justement. Parce que François Ier voulait que ce soit le roi lui-même qui désigne les évêques. Et que, finalement, le pape accorde l'investiture systématiquement aux évêques qui auraient été désignés par le roi. Il y a eu des conflits du même ordre en Allemagne, et les malheureux rois qui ont osé, n'est-ce pas, revendiquer cette prérogative se sont vus frapper d'excommunication et d'interdit. Alors, on retrouve le conflit ici, on retrouve le conflit entier, total. Et ça, le roi de France, Henri XIV, a des arguments très forts pour appuyer ses prétentions, parce que dans les anciens concordats, le roi, dans certains endroits, dans certaines provinces de France, jouit de ce droit de nommer les évêques. Or, partant justement de ces concordats locaux, qui ont été conférés par le pape dans des circonstances historiques données et, si vous voulez, dans des espaces limités pour des raisons tactiques de l'heure, si vous voulez, puis finalement qui subsistaient parce que ça n'allait pas loin, ça n'intéressait qu'une petite région. Seulement, Louis XIV prend prétexte de ces concordats-là pour dire, eh bien, ça, c'est un système qui devrait s'étendre à tout le royaume. Alors ça, évidemment, le pape ne peut pas l'accepter. À l'époque, et sur le trône de Rome, Innocent XI, qui sera en poste de 1676 à 1689, et qui s'y oppose. C'est pour répondre justement à ce conflit sur l'investiture des évêques que Bossuet fait donc approuver les quatre principes gallicans par l'Assemblée du clergé, donc que nous avons lu tout à l'heure. Alors là, on est au bord de la rupture. Et finalement, ni d'un côté ni d'autre, on ne veut aller jusqu'à la rupture. Du côté romain, parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un nouveau schisme sur les bras. Et du côté royal, d'abord parce qu'il y a quand même dans le clergé de France un parti ultramontain extrêmement important, et donc rompre avec Rome, ce serait diviser l'Église catholique française, à la limite se retrouver dans un espèce de climat de guerre de religion, au moment où vient juste d'exterminer le protestantisme en révoquant l'édit de Nantes, ce ne serait pas l'idéal. Finalement, d'un côté comme de l'autre, on met de l'eau dans son vin. Et on arrive à un compromis. Un compromis qui déclare ceci, que le pape donc nomme les évêques, mais que le roi, à la limite, peut avoir un droit de veto sur la nomination qui vient de Rome, si véritablement l'évêque en question lui déplaît souverainement. Bon, personne n'est satisfait de ce compromis-là, parce que ce sont deux absolutismes qui se heurtent et aucun de ces absolutismes n'accepte de limitation à son pouvoir. Et chacun espère, n'est-ce pas, que c'est une trêve et que les circonstances permettront de manger la part du lion finalement. En fin de compte, c'est un échec pour Rome et pour le Concile de Trente. Parce que le Concile de Trente n'a finalement pas réussi à endiguer les mouvements nationaux centrifuges et, somme toute, n'est-ce pas, le gallicanisme va semer aussi à sa manière les germes de la Révolution française. Car la Révolution française, qui est aussi qui a une dimension religieuse anticléricale, l'anticléricalisme qui va naître à la Révolution française, est directement l'héritier du gallicanisme. Le courant gallican continuera à exister en France jusqu'à la Révolution française et même après, n'est-ce pas ? Avec des résurgences diverses, finalement ayant été étouffé par les jésuites, il ressurgira d'une manière violente, comme c'est souvent le cas de mouvements qui ont été réprimés par la force et qui soudain, c'est comme la marmite, la couverture d'une marmite sous pression qui finit par sauter. D'autre part, c'est un échec pour le Concile de Trente aussi, en ce sens que la contre-réforme qu'elle a lancée s'est appuyée sur des églises nationales qui sont restées catholiques. Selon le vieux principe de cuius religio, ça veut dire la religion du prince doit être la religion du peuple. Mais, si vous voulez, il y a eu là une exaspération des particularismes des églises locales, des églises nationales essentiellement. Et on trouve par exemple un phénomène un peu semblable en Espagne sous Philippe II, n'est-ce pas? Philippe II va aussi tenter de mettre l'Église catholique sous sa coupe. Déjà, les rois catholiques, n'est-ce pas, avaient tenté cela. Et par exemple, l'institution de l'Inquisition en Espagne avait à voir aussi avec cette espèce de tentative de césaropapisme, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, le prince veut diriger l'Église, hein. Et l'Inquisition, en principe, l'Inquisition en Espagne n'avait de compte à rendre qu'au roi. C'était une institution d'État et non pas une institution ecclésiastique, ce qui fait qu'elle avait un statut hybride. Et en dernier ressort, n'est-ce pas, dans le deuxième temps, l'Inquisition aura plus un rôle politique qu'un rôle religieux, qui consistera à faire taire autant pour le moins autant les opposants politiques que les opposants religieux. Souvent d'ailleurs les deux choses s'interpénétrant. C'est l'absolutisme français qui conduit au gallicanisme. Et ce d'autant que, à cette époque-là, il n'y a sur le trône de Rome, sur le trône pontifical, aucune personnalité particulièrement marquante. Et par contre, il y a sur le trône de France quelqu'un qui en a une drôle de personnalité marquante. Louis XIV n'est pas un mou, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en même temps, n'est-ce pas, c'est l'époque de l'apogée de la France en tant que puissance politique, ainsi que de la culture française. Le XVIIe siècle est véritablement le siècle français. La culture française, l'art français, n'est-ce pas, se répand dans toute l'Europe sous l'influence justement du classicisme. C'est l'âge d'or du classicisme français qui va gagner toute l'Europe. Alors, la querelle gallicane, finalement, s'achèvera dans cette espèce de compromis, mais avec des germes d'explosion future, ainsi que nous l'avons vu. Troisième mouvement qui secoue l'Église catholique française au XVIIe siècle, après le jansénisme et le gallicanisme, il y a un troisième mouvement qui, lui, le menacera moins l'unité de l'Église catholique française, mais qui va quand même lui poser problème, c'est le quiétisme. Le quiétisme est un mouvement mystique qui vient d'Espagne, qui a pour origine un Espagnol du nom de Molinos, n'est-ce pas, 1640-1696, et qui prône pour la communion avec Dieu une attitude de passivité totale. Passivité totale du croyant en face de Dieu, qui arrive même à l'anéantissement total de la personnalité. Et pour pouvoir entrer en communion avec Dieu, pour pouvoir atteindre l'extase mystique, qui est le but justement des mystiques catholiques et orthodoxes d'ailleurs, c'est pas, enfin, de cette tendance de l'Église, n'est-ce pas, à la contemplation, qui est d'ailleurs le but, n'est-ce pas, des ordres monastiques dits contemplatifs. Finalement, l'ordre monastique contemplatif est un ordre qui recherche une expérience mystique, c'est-à-dire un contact avec Dieu particulier. Eh bien, pour arriver à cette extase mystique, à cette contemplation de Dieu, déclare Molinos, l'homme doit renoncer à tout intérêt, y compris même à son salut. Il doit être prêt à sacrifier son salut pour pouvoir entrer dans la communion de Dieu. Donc, on voit tout de suite que c'est une doctrine très excessive sur deux plans. D'abord parce que il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu sans salut. C'est simplement d'abord celui qui est sauvé qui peut avoir une communion avec Dieu, c'est bien évident. Et puis deuxièmement, il y a un immense danger dans le quiétisme, c'est justement cette doctrine de la passivité, de l'anéantissement. Il faut faire taire tout désir, toute passion, tout sentiment, en quelque sorte, pour n'être plus que dans une totale réceptivité devant Dieu. C'est très bien. Mais quand on est ainsi dans cet état d'anéantissement, on n'est pas disponible seulement pour l'Esprit de Dieu, on est disponible pour d'autres esprits. Et l'anéantissement, la passivité, c'est la, comment dirais-je, l'attitude de base de tous les spirites. Le spiritisme a pour base justement cet anéantissement. Le spiritisme, par exemple, africain, les sorciers africains, du vaudou, des choses semblables, c'est l'anéantissement. Le médium perd totalement le contrôle de lui-même et il s'ouvre à toutes les influences des esprits pour être totalement dominé et contrôlé par eux. Il est bien évident que lorsque on recherche Dieu, on peut penser que le Seigneur, comme il le dit, ne donnera pas autre chose que de bonnes choses. Oui, peut-être. Il y a ce texte. Mais le fait que l'on soit dans un état de passivité totale, n'est-ce pas, d'anéantissement total, peut ouvrir la porte à d'autres influences et à d'autres esprits que l'Esprit de Dieu. Entre parenthèses, je fais une petite digression. Parfois, dans certains milieux pentecôtistes ou charismatiques, on a, pour la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, prôné une attitude qui n'est pas loin du quiétisme. Alors que, bibliquement, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu ne nous demande jamais d'être passif. L'Esprit de Dieu, et ça j'ai toujours beaucoup insisté là-dessus, il y en a parfois du mal à comprendre ça, justement. Je ne sais pas si ce n'est pas un reste de quiétisme, justement. Enfin, mais que c'est toujours la collaboration entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Il y a la part de l'homme et il y a la part de Dieu. Et dans le baptême dans le Saint-Esprit, c'est très clair, par exemple, c'est pas dans le fameux texte des Actes, il fut rempli du Saint-Esprit, ça c'est l'œuvre de Dieu, et ils se mirent à parler. Pas l'Esprit, mais eux. C'est eux qui se mirent à parler. Enfin, il y a collaboration entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas passivité de la part de l'homme. Il n'y a pas renoncement, comment dirais-je, à sa personnalité. Il n'y a pas anéantissement. Et au contraire, épanouissement. Le Saint-Esprit vient justement pour nous épanouir, n'est-ce pas? Et le texte de la première Corinthiens, chapitre 12, insiste beaucoup là-dessus, n'est-ce pas? À l'un, le Seigneur a donné tel don à tel autre, n'est-ce pas? Selon la vocation qu'il lui a donnée, selon la mesure de foi qu'il lui a donnée. Autrement dit, selon sa personnalité, selon sa vocation. L'un n'est pas l'autre, n'est-ce pas? Chacun est unique devant Dieu. Et chacun, donc, a une vocation unique. Et il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de renoncer à son identité, à sa spécificité pour se perdre dans une espèce de grand tout vague, n'est-ce pas? Mais au contraire, n'est-ce pas, de renoncer à soi-même, dans le sens de renoncer à sa volonté humaine, charnelle, à ce qui est charnel, ce qui est péché en soi. Mais pas renoncer à son salut, pas renoncer à ses désirs. Quand ils sont bons, n'est-ce pas? Au contraire, il nous est demandé, n'est-ce pas, de désirer les dons spirituels. Donc ici, on est aux antipodes du quiétisme. Le quiétisme dit, il ne faut rien désirer, même pas des choses bonnes. Mais non. Alors si on ne désire même pas des choses bonnes, on est ouvert pour des choses qui ne sont pas bonnes, justement. C'est ça la question. En France, n'est-ce pas, le quiétisme va avoir deux apôtres, si j'ose dire, particulièrement actifs. Madame Guyon, une femme, ce qui n'est pas d'ailleurs pour nous étonner, n'est-ce pas ? Et nous avons dans le quiétisme une piété un peu, comment dirais-je, sentimentale, à l'eau de rose, n'est-ce pas, qui est typiquement féminine. D'ailleurs, de nombreuses mystiques aussi, parmi les grands mystiques catholiques, sont souvent des femmes, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, ou des gens semblables. Il y a, n'est-ce pas, une espèce de piété mièvre, n'est-ce pas, pauvre et comment dirais-je, sentimentale, n'est-ce pas, qui va développer le quiétisme, surtout le quiétisme français, le quiétisme de Mme Guyon notamment, n'est-ce pas, qui est typiquement féminin. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles la Bible interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme et d'enseigner. Parce qu'il y a cet aspect, n'est-ce pas, un peu sentimental ou mièvre, n'est-ce pas, qui automatiquement vient s'impliquer dans ce que la femme peut enseigner à ce niveau-là. Et puis, le deuxième protagoniste, n'est-ce pas, Madame Guyon, c'est date, si vous voulez, 1648-1717, et donc le deuxième apôtre du quiétisme sera l'évêque de Cambrai, Fénelon, qui lui aussi est le pendant de Bossuet, n'est-ce pas, homme de lettres aussi, d'ailleurs, n'est-ce pas. et adepte du quiétisme, propagandiste du quiétisme en France. Ces dates, 1651-1715. Rome, pour une fois, a une vue juste de la chose, et lorsque le quiétisme se répand, notamment dans des pensionnats de jeunes filles. C'est très intéressant de noter que Fénelon en particulier est le précepteur de pensionnats de jeunes filles. Et le quiétisme va se répandre essentiellement chez les femmes ou chez les jeunes filles, développant donc cet aspect un peu malsain que j'évoquais il y a un instant. Fénelon lui-même est un homme qui a, comment dirais-je, une espèce de sensibilité quasi féminine, n'est-ce pas? C'est un homme. Je n'oserais pas dire efféminé, ce serait peut-être excessif et injurieux en ce qui me concerne. Mais c'est un homme qui aime beaucoup la compagnie féminine, peut-être pas au mauvais sens du terme, mais qui est là quand même dans une situation qui est parfois limite, quoi, parfois limite. Et alors, donc, Rome se rend compte de cette évolution, c'est une espèce de. On dirais-je, mouvement malsain qui naît parmi ces femmes et ces jeunes filles, n'est-ce pas? Et Rome va condamner le quiétisme. Pour une fois, donc, c'est une vision juste. Et cette condamnation va aller jusqu'à l'emprisonnement de Madame Guyon. Bon, ça, c'est peut-être moins bon, mais enfin, ça montre que Rome avait pris la chose très au sérieux. Reste Fénelon. Fénelon, lui, qui est un prélat, un évêque, on ne peut pas l'emprisonner comme une simple Madame Guyon, c'est bien évident. Et alors, c'est Bossuet qui se charge de rompre des lances avec Fénelon. Et alors, il y aura entre Bossuet et Fénelon une controverse très vive, littéraire d'ailleurs, n'est-ce pas, au sujet du quiétisme. Fénelon, défendant bec et ongles, n'est-ce pas, son système, notamment dans un ouvrage qui se nomme Télémaque, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que finalement, après avoir patienté, comme c'est en général le cas, en 1699, Rome condamne Fénelon, condamne sa doctrine, condamne ses écrits. Là, Fénelon est au pied du mur, n'est-ce pas? Ou bien il se soumet, ou il se démet. Bon, mais il se soumet. Il se soumet, il confesse ses erreurs, et finalement meurt certainement pas dans une euphorie béate. Hein, on peut l'imaginer. Donc, si vous voulez, voilà les trois grands problèmes qui vont agiter l'Église catholique française au XVIIe siècle. Maintenant, comme l'a dit un auteur du XIXe siècle, je ne sais pas si c'est pas Michelet, le XVIIe siècle fut un siècle chrétien. Chrétien, mais janséniste, ajoutera-t-il. Hein. C'est-à-dire que nous assistons au XVIIe siècle, au sein du catholicisme français, qui est donc l'aile marchande du catholicisme à cette époque-là, malgré donc ces problèmes internes que j'évoquais tout à l'heure, a un foisonnement de choses positives et négatives du point de vue catholique. Les choses négatives, nous on les voit. Il y a aussi des choses qui sont positives dans ce que sera le catholicisme officiel. Et notamment, il y a deux noms qu'il faut connaître de cette période-là. Le premier, c'est François de Sales. François de Sales, 1567-1632. François de Sales est évêque d'Annecy, et un homme dont les premières années de sa vie ont été marquées par les guerres de religion. Il est profondément impressionné par ce qui s'est passé là. Et c'est un homme qui, très jeune, cherche Dieu certainement d'une manière tout à fait sincère, et il va connaître une sorte de conversion, je n'ose pas dire une conversion à part entière, mais il a surtout, il est aussi, c'est l'époque du jansénisme, il est travaillé à la fois par, si vous voulez, la doctrine de la réforme, même s'il ne le dit pas, n'est-ce pas? Et puis aussi, il est travaillé par le jansénisme. Et alors, le jansénisme, insistant sur l'idée de prédestination, comme le calvinisme d'ailleurs, n'est-ce pas? Surtout le calvinisme de cette période-là. François de Sales a une crainte qui le taraude constamment, c'est d'être prédestiné pour l'enfer. Alors il vit dans la terreur, n'est-ce pas, de l'enfer. Ça nous semble étrange, nous, au XXe siècle, n'est-ce pas, que des gens puissent vivre dans la terreur de l'enfer. Eh bien, au XVIIe siècle, on en rencontrait encore pas mal de gens comme ça. Alors donc, dans la crainte qui est la sienne d'être damné, François de Sales cherche Dieu de tout son cœur. Et puis, finalement, en 1593, n'est-ce pas, il fait une expérience qui n'est pas aussi profonde que celle de Pascal, n'est-ce pas, mais qui est un petit peu du même type, dans laquelle il reçoit la conviction de Dieu qu'il n'est pas damné, il n'est pas prédestiné à l'enfer, il n'est pas damné. Bon, il n'ose pas, évidemment, bon catholique qu'il est, il n'ose pas affirmer qu'il est sauvé. Il n'est pas non plus janséniste, d'ailleurs, pour le dire. Mais en tout cas, il a une occasion pour le moins de faire son salut. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas irrémédiablement perdu. Donc, désirant ardemment être sauvé, il décide de devenir prêtre. Donc, il est ordonné prêtre en 1598, pardon, 1596. Et en 1602, il devient évêque de Genève, la ville évidemment protestante. Donc, automatiquement, il ne veut pas occuper son siège épiscopal parce qu'on le chasserait évidemment à coups de bottes dans l'arrière-train, c'est évident. Donc, il siège à Annecy. Le siège épiscopal de Genève est à Annecy. Mais en principe, ses ouailles, si on peut dire, sont les protestants de Genève. Donc, eh bien, il va se préoccuper d'eux. Et sa préoccupation essentielle, c'est de les ramener au catholicisme. Comment ramener ces brebis égarées dans le giron romain? En 1604, il fait la connaissance d'une femme d'une grande piété qui s'appelle Madame de Chantal, avec laquelle il partage justement ce souci qui est le sien, comment convertir les Huguenots, comment ramener les Huguenots. Et finalement, après de longs entretiens avec Madame de Chantal, il décide de fonder avec elle un ordre religieux qui s'appellera l'ordre de la Visitation, qui a, comment dirais-je, qui est une synthèse de deux courants monachiques dans le catholicisme qui semblent contradictoires. Le premier, la vie mystique, mais non pas le mystique, la mystique selon Madame Guyon, une mystique beaucoup plus saine. Et puis la vie active. En fait, lorsque François de Sales présente son projet à Rome, il est refusé. Il est refusé parce que c'est l'époque du quiétisme et on craint finalement que l'ordre ne se perde dans quelque chose de semblable. Finalement, François de Sales est obligé de se contenter, n'est-ce pas, d'un ordre qui soit uniquement contemplatif. Seulement, François de Sales a une vision de la mystique tout à fait différente de celle de Mme Guyon. Et pour lui, n'est-ce pas, il a une conception de l'ascèse qui est une sorte d'humanisme chrétien. C'est un homme très. Et un homme qui va avoir une dimension de cœur qu'on trouve rarement dans le clergé catholique de cette période-là. Il écrit un livre dans lequel il expose sa doctrine et qui sera la base de son ordre. Ça s'appelle L'introduction à la vie dévote. Et son but, c'est de faire en sorte que des gens qui n'entrent pas dans les ordres, qui ne sont pas destinés à entrer dans les ordres, puissent vivre une vie pieuse. Par conséquent, si vous voulez, c'est une espèce de vulgarisation de ce qui est la règle de son ordre, pour que, en quelque sorte, une sorte de tiers ordre laïque puisse lui aussi être associé à l'ordre de la Visitation qu'il a fondé. Et alors, il est le premier, si vous voulez, qui effectue pour le compte de l'Église catholique la récupération de l'humanisme qui avait été à la base de la réforme. François de Sales est assez intelligent pour comprendre le rôle que l'humanisme a joué dans la réforme. Et depuis, évidemment, la réforme, l'humanisme est devenu anathème dans l'Église catholique. François de Sales se dit que c'est peut-être dommage d'avoir ainsi répudié toute forme d'humanisme, mais que peut-être justement en rendant le catholicisme plus humain, plus ouvert à, comment dirais-je, la dimension de l'individu, peut-être qu'on pourra ainsi ramener les Huguenots dans le catholicisme qu'ils ont répudié. François de Sales, contrairement à Madame Guyon, n'est-ce pas, insiste sur l'aspect que j'évoquais tout à l'heure, il a une vision très biblique en cela, n'est-ce pas, la collaboration de l'homme et la collaboration de l'Esprit de Dieu dans justement non seulement la mystique, mais également la vie active. Et malgré tout, n'est-ce pas, il n'a pas une vue entièrement biblique, il reste un petit peu tributaire, même sans se rendre compte tout à fait du quiétisme, dans ce sens que Il fait une espèce de transposition dans le christianisme de la doctrine des philosophes stoïciens grecs. Ça veut dire que l'homme doit se résigner à son sort sans jamais se plaindre, que son sort soit bon ou que son sort soit mauvais. Et il ne faut jamais rien revendiquer, jamais rien demander à Dieu et jamais rien ne refuser et je ne jamais rien refuser de Dieu. Il a cette vision fausse, n'est-ce pas, bibliquement fausse, que tout ce qui arrive à un homme vient de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Alors un homme est-il malade? C'est la volonté de Dieu. Se casse-t-il une jambe? C'est la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y a une tuile qui lui tombe sur la tête? Est-ce qu'il se fait trucider par des malfrats au coin d'une rue? C'est la volonté de Dieu qu'il en soit ainsi. Faut pas protester, il faut accepter ça comme la volonté de Dieu. Bon, bibliquement, c'est totalement faux, n'est-ce pas? Parce que Dieu ne prédestine pas ainsi toutes les choses, n'est-ce pas? Il y a des événements négatifs qui arrivent pour toutes sortes de raisons dans lesquelles Dieu n'est pas directement. Bien sûr, on peut dire que Dieu est finalement la cause des causes et que Dieu a permis, si une tuile me tombe sur la tête, après tout, c'est parce que Dieu l'a permis, d'accord? Ça ne veut pas dire que vraiment ce soit sa volonté, que je dois recevoir, n'est-ce pas, cet incident comme sa volonté. Et alors, donc, si tout est volonté de Dieu, si les choses mauvaises sont la volonté de Dieu, il ne convient pas non plus de demander quoi que ce soit à Dieu. Puisque de toute façon, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplira. Donc, c'est inutile de demander. Bon, alors, à quoi sert la prière? Eh bien, la prière, c'est pour louer Dieu, pour bénir Dieu, et puis pas pour demander. François de Sales répudie toute forme de prière d'intercession, ce qui, évidemment, est tout à fait excessif. Et finalement, par ce biais-là, il retrouve ce qu'il avait essayé de répudier, c'est-à-dire une mystique quiétiste. Parce que finalement, le quiétisme, c'est rien d'autre que ça. N'est-ce pas? S'anéantir, ne plus avoir aucun désir. Si je ne demande plus rien, je n'ai plus aucun désir. Je reçois, comme venant de Dieu, tout ce qui m'arrive, le bon et le mauvais, eh bien, automatiquement, je n'ai plus non plus de désir, je m'anéantis. Finalement, on retrouve ce qu'il avait voulu répudier, c'est-à-dire, justement, une mystique quiétiste. Malgré ça, n'est-ce pas, François de Sales réussira à ramener un certain nombre de huguenots, effectivement, dans le giron de l'Église catholique. Et c'est quand même assez remarquable, il faut lui rendre cet hommage, qu'il est tout de même le premier prélat catholique qui est tenté, n'est-ce pas, qui réussit jusqu'à un certain point de convertir au catholicisme des gens sans contrainte, sans utiliser la force, la douceur et la violence, uniquement par ses arguments. Bon, on peut mettre en doute la valeur de ses arguments, on peut les contester, mais enfin, il est quand même le premier qui, dans ce siècle d'intolérance, ait montré vis-à-vis des huguenots une certaine tolérance, même au moment où il essayait de les ramener dans l'Église catholique romaine. Le deuxième nom qu'il faut connaître de cette période-là, c'est Vincent de Paul. Vincent de Paul, 1581-1660. Vincent de Paul était un homme qui avait été enlevé par les Maures. Vous savez, c'était fréquent, les Maures, c'est-à-dire les musulmans, c'était fréquent, les barbaresques venus de l'Afrique du Nord en particulier, faisaient des razzias sur les côtes européennes, sur les côtes françaises entre autres, mais pas seulement, espagnoles, italiennes et autres, n'est-ce pas? Et ils enlevaient des jeunes gens ou des jeunes garçons qu'ils emmenaient prisonniers, esclaves, n'est-ce pas, dans leur pays. Et c'est ainsi que Vincent de Paul, jeune homme, a été enlevé par les Maures et emmené à Tunis. Et la chose extraordinaire, Vincent de Paul, qui était déjà un chrétien convaincu, réussira ce tour de force d'amener son maître musulman à la foi en Jésus-Christ, en plein Tunis. Faut le faire. Faut le faire. Surtout à cette époque-là, n'est-ce pas, où les musulmans sont encore plus intolérants qu'ils ne sont aujourd'hui, ce qui n'est pas peu dire. N'est-ce pas? Ça montre la force de sa persuasion. Bien évidemment, une fois que son maître est venu à la foi en Jésus-Christ, il le libère. Et c'est ainsi que Vincent de Paul retrouve sa liberté. Et Vincent de Paul, qui a souffert dans sa jeunesse, qui a été confronté avec la misère de ses prisonniers là-bas, n'est-ce pas, est tout de suite attiré par la souffrance de ses semblables. Et Vincent de Paul va se consacrer, comme on le sait, n'est-ce pas, à soulager les souffrances de ceux qui sont autour de lui. Et c'est ainsi qu'une fois, dès qu'il rentre en France, il fonde un ordre, s'appelle l'ordre de la Charité, les sœurs grises, n'est-ce pas, avec des cornettes, n'est-ce pas, qui ont pour souci et pour but de s'occuper essentiellement des malades. Puis ils fondent un ordre semblable du côté des hommes, ça s'appelle les lazaristes, mais qui ont alors un but un petit peu différent de l'ordre de la charité. Il s'agit de la prédication. Et on sait comment Vincent de Paul va sans relâche, n'est-ce pas, se consacrer à cette tâche d'une manière admirable. Il sera canonisé à juste titre par l'Église catholique, n'est-ce pas ? Bien entendu, nous ne canonisons personne, mais il faut reconnaître en la personne de Vincent de Paul un authentique chrétien, un homme qui a un exemple et un message à nous donner jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas ? Et qui a véritablement vécu l'Évangile de Matthieu 25. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, n'est-ce pas ? Et tout en étant catholique, c'est un homme qui a été un authentique et véritable chrétien. Alors, dans le même temps, n'est-ce pas, un autre abbé ami de Vincent de Paul, s'appelle l'abbé de Rancé, fonde en 1671 l'ordre cistercien de la Trappe, après avoir lui-même vécu une jeunesse orageuse. Et dans sa vision, n'est-ce pas, il entend essentiellement se laisser conduire par Dieu, comprendre les temps de Dieu. Finalement, les deux ordres fusionnent, les lazaristes et l'ordre lancé par Rancé, bien que ensuite, n'est-ce pas, les cisterciens continueront leur propre chemin. Mais en tout cas, il y a des passerelles entre eux. Et les lazaristes font vœu de pauvreté comme n'importe qui d'ailleurs, mais enfin, la pauvreté des moines est parfois extrêmement relative. Et les lazaristes s'engagent, n'est-ce pas, ça fait partie de leurs règles imposées par Vincent de Paul, de ne recevoir aucun bénéfice. Qu'un bénéfice ecclésiastique et de travailler uniquement gratuitement. Alors, Vincent de Paul fonde un premier séminaire qui s'appelle Saint-Lazare, qui existe encore. Puis alors, il va se dépenser sans compter, créant hôpitaux, orphelinats, écoles, n'est-ce pas ? Enfin, c'est toute l'épopée de Vincent de Paul telle qu'on le connaît. Dans sa création, n'est-ce pas, de l'ordre lazariste, Vincent de Paul a aussi un autre but, c'est de lutter justement contre le quiétisme. Et les frères prédicateurs que sont les lazaristes ont, dans le collimateur, si l'on ose dire, justement, les quiétistes. Donc, si vous voulez, nous avons ici tout un foisonnement extraordinaire de l'Église catholique au XVIIe siècle. Il faudrait aussi évoquer d'autres ordres français qui naissent à cette période-là, des ordres religieux extrêmement nombreux, par exemple les suppliciens, n'est-ce pas, en 1664. En 1681, ce sont les frères des écoles chrétiennes qui ont pour but l'enseignement. Et puis, donc, les trappistes dont nous avons évoqué tout à l'heure la création. Bon. Maintenant, le catholicisme français classique du XVIIe se caractérise aussi par la promotion d'un art tout à fait particulier que l'on appelle l'art baroque. L'art baroque, c'est essentiellement l'art jésuite, qui foisonne dans toute l'Europe de cette période-là, mais particulièrement dans le royaume de France. C'est une espèce de renaissance de l'art qui est marquée par la somptuosité, la richesse de la décoration, telle que finalement cette somptuosité de la décoration masque les lignes extérieures. Alors, il y a quelques monuments français qui sont les témoins les plus caractéristiques de cet art baroque, par exemple la coupole des Invalides à Paris. Et finalement, cet art baroque, c'est le prolongement de la Renaissance, du XVIe siècle, XVe et XVIe siècle, et qui finalement, à la fin du siècle, au début du siècle suivant, va dégénérer dans ce qu'on appelle l'art rococo, qui est un grandiose qui dégénère en criard, mais qui est en même temps, si vous voulez, l'expression d'une conception qu'a le catholicisme de lui-même à cette période-là. Donc, la manifestation, l'expression du sentiment de triomphe, le triomphalisme de l'Église catholique, qui s'impose par cette espèce d'art massif qui s'affirme, n'est-ce pas, avec assurance, mais en même temps, n'est-ce pas, dans son caractère touffu, confus, n'est-ce pas, l'inquiétude du siècle. Il y a une inquiétude dans le catholicisme du XVIIe siècle. Bon, on retrouve aussi cet art-là, évidemment, ailleurs, et notamment en Italie. Et Saint-Pierre de Rome est aussi une expression typique de l'art baroque, hein, et notamment la coupole de Michel-Ange. Bon. Alors, bon, ça, je le cite simplement pour mémoire, parce que ce n'est pas sur le plan spirituel quelque chose qui apporte énormément, mais enfin, il faut le savoir. Ça. Bon, et enfin, pour terminer, j'évoquerai les grands prédicateurs de cette période-là. Car le XVIIe siècle est marqué aussi par des prédicateurs de grands talents au sein de l'Église catholique. C'est tout à fait intéressant de voir, n'est-ce pas, qu'on accorde aussi à cette période-là une importance à la prédication qu'on ne trouve pas dans d'autres siècles. Peut-être y a-t-il là, justement, une influence protestante et le désir, justement, de contrer la prédication protestante. La réforme protestante s'est répandue essentiellement par la prédication. Au centre du culte protestant, il y a la prédication de la parole de Dieu. Et par conséquent, un certain nombre de catholiques ont essayé de combattre la réforme sur son terrain de prédilection, qui était la prédication. Et en général, la prédication qui était négligée dans l'Église catholique, réduite à une portion congrue, va être soignée particulièrement, précisément pour pouvoir être au niveau de la prédication protestante. Et le principal prédicateur de cette période-là sera Bossuet. Bossuet, qu'on appelle l'aigle de Meaux, n'est-ce pas, qui est un prédicateur impressionnant, n'est-ce pas, qui sait à la fois jouer du timbre de sa voix, qui sait à la fois effrayer, qui sait à la fois rassurer, n'est-ce pas, et qui, notamment, va s'en prendre aux protestants. Il va tenter, n'est-ce pas, de démolir ce que le catholicisme appelle l'hérésie protestante. Il le fera, n'est-ce pas, dans des ouvrages. Et son argument essentiel, c'est celui qui est encore utilisé dans l'apologétique catholique aujourd'hui, c'est la grande antiquité, n'est-ce pas, de l'Église romaine contre les Églises protestantes qui sont récentes, encore plus récentes de son temps, bien sûr, que du nôtre. Et par conséquent, qui n'ont pas de passé, qui n'ont pas de racines, qui ne peuvent pas se glorifier de ce glorieux passé. Et puis le deuxième point faible, évidemment, du protestantisme ne lui a pas échappé, c'est son morcellement, sa dispersion et sa division. Et Bossuet, n'est-ce pas, ironise à l'envi, n'est-ce pas, sur les divisions des églises protestantes, luthériennes, calvinistes, anglicanes, anabaptistes et choses semblables, n'est-ce pas, pour montrer que des gens qui n'ont pas une unité de vue, n'est-ce pas, ne peuvent pas être dans la vérité, alors que l'église catholique, etc. Bon, évidemment, Bossuet était un petit peu mal placé pour employer cet argument-là, au moment même où lui, n'est-ce pas, se faisait le champion du gallicanisme contre l'ultramontanisme. Mais enfin, Bossuet n'en était pas à sa près. Bon. Donc, Bossuet, grand prédicateur. Ce qui est intéressant, malgré tout, dans Bossuet, n'est-ce pas, outre le fait qu'il prêche beaucoup sur le dogme, beaucoup de ses prédications sont sur le dogme. On lui doit aussi des oraisons funèbres, célèbres, n'est-ce pas, telles l'oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre, qu'on appelait Madame, puis de son mari, qu'on appelait Monsieur, n'est-ce pas, d'autres grands de la cour, n'est-ce pas. Il était spécialiste des oraisons funèbres. Bon, à côté de ça, c'était un homme qui avait une notion de la conversion et qui prêchait la conversion. Alors ça, il faut quand même lui rendre cette justice. Dans le catholicisme, peut-être sous l'influence de la réforme, je ne sais pas exactement, il y avait des gens qui prêchaient la conversion. On peut penser que parmi les catholiques français de cette période-là, un certain nombre de gens donc, étaient authentiquement convertis. Bon, j'ai évoqué Fénelon tout à l'heure, lui aussi, donc, qu'on appelait le cygne de Cambrai, lui aussi grand prédicateur, mais alors, disons, à la limite de l'hérésie, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, je n'y reviens pas. Bon, il y avait un autre grand prédicateur qui se nommait Fléchier, qui était évêque de Nîmes, qui a pris une part importante dans la prédication des protestants au moment de la révocation de l'édit de Nantes et après la révocation de l'édit de Nantes, qui se faisant n'est pas pour nous un des personnages les plus sympathiques. Et puis, il y a l'archevêque de Clermont, qui se nommait Massillon, qui lui aussi était un prédicateur de renom à cette période-là. Voilà, si vous voulez, très schématiquement, comment on peut situer l'Église catholique française au XVIIe siècle. Une Église catholique forte, puissante, appuyée sur l'absolutisme royal, et puis sur une je dirais peut-être pas une piété, mais en tout cas une inquiétude religieuse indiscutable dans la population à tous les échelons. En sorte que l'Église catholique française, à cette période-là, a été une Église catholique riche, pas seulement sur le plan financier, c'est vrai, elle l'était aussi, mais avec des richesses, je ne sais pas si on peut dire spirituelles, certaines étaient spirituelles, d'autres étaient culturelles, d'autres étaient humaines, n'est-ce pas ? Mais enfin, c'est une période faste, pourrait-on dire, du catholicisme en général. Et du catholicisme français. C'est une des périodes de splendeur du catholicisme français, malgré les faiblesses qui étaient les siennes, notamment ces courants qui l'ont traversé et qui l'ont passablement inquiété dans cette période-là. Comme le disait donc Michelet, je terminerai par sa citation que j'évoquais tout à l'heure, « Ce fut un siècle chrétien, mais janséniste ». Voilà, est-ce que vous avez des questions là-dessus ?